Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
Trop sympa.
Le GG et vous qu'on enchaîne et on va reparler d'une de nos sujets de discussion. C'était avec Barbara Lefebvre. C'était à propos de cette campagne du ministère de l'Intérieur qui appelle à la vigilance en ce qui concerne les regroupements de migrants dans le nord de la France, où il demande aux citoyens de les signaler. Et on avait cette discussion avec Barbara notamment et avec moi. Est-ce que c'est de la délation ou est-ce qu'au contraire c'est une espèce de vigilance citoyenne? Est-ce que je suis un délateur si je le signale à ce moment-là aux autorités?
Non,
si je signale
c'est non assistance à personne en danger. Non, imaginons qu'un jour
il y a eu il y en a qui sont morts dans des camions, écrasés sous des essieux de camions, etc.
Il faut pouvoir le dire.
Non mais est-ce que si je le dis ou si je vais voir la gendarmerie à côté en disant écoutez, il y a une cinquantaine de personnes qui vont sûrement essayer de passer, est-ce que je fais de la délation ou est-ce que je fais au contraire un travail de vigilance ou pas?
Il vaut mieux qu'il soit arrêté par la police plutôt qu'il meure en mer ou sous un camion à essieux.
Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Barbara vous écoute alors, Tanguy, allez-y.
C'est horrible ce qu'on vient d'entendre. Moi, voilà ce qui se passe. Moi, j'ai des amis qui sont tchétchènes, qui ont connu les centres de rétention. Moi, j'ai fait des bêtises dans ma jeunesse. Je me suis retrouvé à connaître une maison d'arrêt. Et donc, c'était pas la joie et ça m'a calmé. Imaginez ces gens qui ont traversé l'Europe, qui des bateaux et tout ça, arrive en France, et là, vous vous le dites, allez voir les gendarmes pour les dénoncer, ça va les aider. En face, moi, je pense franchement comme votre collègue qui disait, allez voir les associations. Vous dites l'inverse, vous dites que les associations font du mal. Moi, je pense sincèrement qu'au vu de comment j'ai été traité par la justice lors de ma détention et comment mes amis ont été traités lors de leur détention, je fais plus confiance. Croyez-moi, je fais plus confiance aux associations qu'en ma justice, pourtant... Je suis français, il n'y a pas de souci. Mais je préfère faire confiance aux associations. Je pense que si vous avez plein de choses à m'apprendre, moi, si je peux vous demander, par expérience, allez mettre les pieds dans une maison d'arrêt et demandez-vous si ces gens, après avoir traversé l'Europe, méritent ça.
Non, mais j'ai jamais dit ça. Alors, déjà, je n'ai jamais dit que ces gens méritaient d'aller en maison d'arrêt. Déjà, j'ai déjà visité une maison d'arrêt. Ensuite, vous avez décrire un pays, vous avez l'air de vivre en Corée du Nord, apparemment. Donc, la justice, le système pénitentiaire, tout ça fait que il faudrait tout sous-traiter aux associations. J'ai pas dit non plus que les associations faisaient un mauvais travail. Je dis simplement que quand il y a un risque pour un groupe de personnes dont on voit qu'ils sont en train de se mettre en danger, la réaction la plus naturelle, me semble-t-il, est de les empêcher de faire un acte. Moi, je peux comprendre qu'ils aient envie d'aller en Angleterre, c'est pas le problème. Par contre, s'ils mettent leur vie en danger, voire éventuellement s'ils mettent la vie d'autres personnes en danger pour réaliser ce projet qui est le leur, et je n'ai pas à juger de ce projet, je pense que oui, c'est mon devoir et c'est notre devoir de les empêcher de mettre leur vie en danger. Maintenant, vous n'avez pas eu l'air de comprendre exactement ce que j'ai dit, vous avez l'air de généraliser, mais j'ai jamais dit qu'il valait mieux qu'ils aillent en prison et que leur place était en prison, c'est pas ce que j'ai dit du tout.
Allez-y, Tanguy.
Non, mais vous comprenez qu'actuellement, ils sont, on va dire, parqués dans des camps, donc on sait où ils sont.
Non, ils sont pas parqués dans des camps, arrêtez avec ce genre de terme.
Désolé, ils sont pas dans des logements sociaux, ils sont pas dans des logements abandonnés qu'on a et qu'on pourrait leur mettre à leur disposition, ils sont pas à ces endroits-là. Ils sont parqués dans des camps.
Il y a beaucoup de gens à la rue non plus qui sont pas dans les logements sociaux.
Ils sont, et quand donc on les voit se mettre en danger, on va avoir une association. Effectivement, il y en a qui se mettent en danger, qui pourraient mettre des gens en danger. Le fait d'aller voir un gendarme et lui dire, faites attention, ces gens se mettent en danger ou vous nous mettez en danger. Moi, pour moi, à partir du moment que la justice va y mettre sa main, les mettre dans des centres de rétention, il y a vraiment aucune, là, c'est absolument pas leur amener de l'aide. Je vous assure, c'est pas leur amener de l'aide, d'une manière ou d'une autre.
Après, j'entends, mais moi,
pour moi, c'est pas leur amener de l'aide. Oui. Une association, de par le fait que ce soit une association, trouvera les moyens
eux
en aide.
J'ai compris, mais sauf que la campagne qui a l'air d'être menée, c'est pour s'adresser. Le gouvernement, la préfecture, etc., sait que les associations sont déjà sur le terrain. Ils disent simplement, par exemple, la nuit, sur d'autres secteurs où les associations sont pas forcément déployées, si vous, en tant que riverain, en tant que citoyen, vous voyez quelque chose, dites-le. C'est ça. C'est pas substituez-vous aux associations. C'est peut-être quelque chose qui serait de l'ordre d'une collaboration entre les associations et les riverains.
Merci,
voilà.
Tanguy, d'avoir été avec nous. Suite du GG, vous, dans un instant, avec Jérôme, pour reparler de Steve Maya Canisso, avec Étienne Yebig et surtout du rôle de la police.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
J'ai entendu à la radio ce matin.
RMC.
Un bruit étrange court dans Paris.
Dis-moi pas que c'est pas vrai.
Sans blague.
À ton understand.
9h.
Qu'est-ce qu'il y a?
Midi.
Mais pourquoi tu m'écoutes pas?
Qu'est-ce qu'il dit?
Pourquoi tu m'écoutes jamais? Qu'est-ce que c'est que ça?
Salut le Max, ça pisse.
Alain Marchal.
Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages?
Les grandes gueules.
Dans cette nature magnifique et sauvage, où la vie animale fait sa loi, il existe pourtant une règle simple.
Pouvoir grand dans la vie.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, suite des grandes gueules en direct depuis 9h jusqu'à midi avec Elina Dumont, Barbara Lefebvre, avec Étienne Libig, c'est le GG. Vous, Jérôme veut reparler de la mort de Steve Maya Canisso. Retrouvé, son corps a été retrouvé dans la Loire. Le rapport de l'IGPN dit qu'il n'y a pas de lien entre son décès et l'intervention des forces de l'ordre. Il reste quand même des zones d'ombre à éclaircir. Il y a une information judiciaire, une enquête judiciaire. Le Premier ministre qui souhaite qu'il y ait une enquête administrative aussi en parallèle. On réécoute Étienne Liebig et il en parle avec Jérôme.
Et que là, on intervient avec des gaz lacrymogènes au bord de l'eau, avec des mecs défoncés parce que
ça,
tout le monde picole.
On sait pas si...
La police connaît ça par cœur, donc elle sait très bien qu'elle
a eu une faute d'appréciation.
Mais évidemment, tu rentres pas dans un troquet où les mecs à 3h du matin sont déchirés en prenant ce risque-là. On sait très bien que les mecs ils sont complètement dans les vapes. Donc tu sais très bien que ça va tomber à l'eau. Or, quand tu tombes à l'eau, en plus que t'es cuit, si tu vas pas ramasser les gens, ils risquent de se noyer.
Jérôme, bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Allez-y, Étienne, vous écoute, Jérôme.
Bah écoutez, je voulais revenir sur les propos, en fait, moi, sur le fait que la police devrait s'adapter aux circonstances. Et en l'occurrence, là, quelques personnes ivres, défoncées, qui font une fête en bord de l'eau, quoi. Donc, moi, je veux bien écouter Étienne sur sa façon, de s'adapter. Mais comment on fait pour s'adapter à chaque manifestant, chaque personne, chaque cas? Parce que là, en fait, c'est pas la police qui est en tort, c'est la préfecture qui autorise une fête au bord de l'eau, quoi, déjà, quoi. Ça devrait déjà être au départ interdit. Après, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont ivres morts à 4h du matin et qui ont averti, qu'on prévient, qu'il faut partir, déguerpir, que l'heure est passée? Il y a au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on dit aux gars, là? Mettez un gilet de sauvetage, on va vous charger, vous êtes au bord de l'eau, quoi. On peut pas, il y a un moment ou un autre, faut agir, quoi.
Moi, je vais vous dire, j'ai accompagné des policiers qui font des interventions de nuit, par exemple, ce qu'on ignore, mais je dis souvent ici parce que je trouve que on connaît pas bien le boulot des policiers, on imagine toujours qu'ils sont en train de matraquer des gens. Il se trouve que dans un commissariat, la nuit, l'essentiel du taf, c'est d'essayer que des mecs tapent pas sur leurs femmes et sur leurs mômes, que des mecs bourrés, et alors c'est les voisins qui appellent, qui disent en dessous, c'est en train de se battre, il faut intervenir vite. Ben moi, j'ai vu les policiers intervenir, hein, ils défoncent pas la porte, ils cassent pas tout, ils essayent de discuter avec le type qui est bourré et qui est dangereux, parce qu'ils veulent pas, ils veulent, non, non, mais quand vous dites qu'ils s'adaptent pas, non, non, mais, quand vous dites qu'ils s'adaptent pas, les flics, ils s'adaptent toujours, au contraire. Et ça fait partie de leur métier, de leur intelligence d'intervention.
Deux personnes en face d'eux quand
regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Est-ce que vous pensez sincèrement que si les flics s'étaient pas adaptés aux circonstances, il y aurait pas eu des morts? Moi, je trouve.
Oui, mais là, c'est une circonstance particulière, une fête au bord de l'eau à 4h du matin.
Eh bien, justement. Tous ces flics,
comme
ils savent très bien.
Une kermesse pour des enfants,
Non. Moi, je vous dis, la police, ça sait très bien qu'en intervenant, elle prend le risque. D'abord, il y en a 14 qui sont tombés. Donc, c'est pas normal de faire tomber 14 personnes dans l'eau à 4h du matin.
Le souci, c'est que c'est pas les policiers qui les ont poussés, c'est que
on sait très bien que quand on balance des gaz lacrymogènes, les mecs, ils vont courir dans tous les sens et qu'ils vont tomber dans l'eau. On le sait. C'est même n'importe qui le sait. C'est un peu comme cette histoire de Notre-Dame avec le plomb. Quand il y a 500 tonnes de plomb qui fond, on sait qu'il va y avoir de la pollution. Eh ben, c'est exactement ça. Et moi, je vous dis qu'on intervient pas de cette manière-là.
qu'on sécurise le bord de l'eau, qu'on mette les policiers le long de l'eau pour éviter que des gens tombent et qu'on intervient ensuite en les prenant à revers, par exemple. Je pense que là, il y a une.
Je pense que c'est une absurdité.
C'est une absurdité.
C'est facile comme discours de dire c'est la police qui a mal fait son boulot. Il y en a qui sont tombés à l'eau et malheureusement il y a un gamin de 20 d'une vingtaine d'années qui s'est
noyé. Je le dis. Voilà, je pense très sincèrement qu'ils ont reçu de mauvais ordres. Je pense très sincèrement qu'ils ont reçu le mauvais ordre.
Après, Jérôme, il y a eu...
Les mauvais ordres, ils viennent d'une situation qui a été mal gérée au départ. C'est la préfecture, déjà, qui devrait interdire des fêtes au bord de l'eau.
C'est toujours comme ça. Vous pensez que quand il y a des raves qui prennent position dans les champs qui a été prêté par un paysan, ça déborde pas à droite, à gauche, qu'il n'y a pas de risque. La police, s'adapte en permanence en fonction de ce qui se passe. On n'intervient pas pareil, selon les circonstances. Et je vous dis, je trouve qu'avec les gilets jaunes, et avec certains gilets jaunes ou Black Bloc ou ce que vous voulez, où il y avait quand même pas mal de risques et tout, finalement, en gros, il y a eu beaucoup de débordements, il y a eu des blessés, il y a eu des choses très graves, mais il n'y a pas eu de mort, grosso modo, a priori par la police, sauf cette dame à Marseille. Mais il n'y a pas eu de mort directe par la police, et ce qui était quand même, à mon avis, la grosse peur du gouvernement.
Merci Jérôme d'avoir été avec nous, d'avoir discuté avec les grandes gueules. À bientôt Jérôme pour de nouvelles discussions. On va revenir sur cette proposition de loi destinée à protéger les bruits de la campagne, et du coup on a eu tout un sujet de discussion sur les urbains ou les gens qui habitent les villes et qui d'un coup veulent s'installer à la campagne, qui aiment bien la campagne pour avoir un peu plus d'espace mais qui veulent aussi y importer la ville. Donc dans le débat, on a entendu Barbara Lefebvre et elle va en rediscuter avec Juliette qui est de Corrèze. Mais on écoute Barbara d'abord.
Néo-ruraux qui arrivent à la campagne mais qui veulent pas le bruit du tracteur, le bruit de la vache, les odeurs de la vache parce que ça les dérange. Et ben ouais, c'est la campagne. Si vous êtes pas content, vous restez à entendre le bruit des voitures dans les villes et puis vous arrêtez de venir à la campagne soi-disant pour vous mettre au vert, mais vous êtes incapable de vivre vraiment ce que c'est la vie rurale. Ben la vie rurale, c'est des cloches, c'est des coqs, c'est des vaches. Ça sent pas toujours très bon, ça sent le crottin, ben c'est comme ça. Si vous êtes pas content, vous restez en ville.
Juliette, bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Bonjour.
Je suis très contente de vous avoir. Alors voilà, merci, je voudrais merci. Intervenir parce que je pense que Barbara Lefebvre, c'est drôle, je m'appelle aussi Juliette Lefebvre, n'a pas vécu à la campagne.
Ah, c'est une question ?
Ben d'abord, oui.
Oui, si, en partie, mais bon, je vous écoute.
Oui, parce qu'il faut d'abord parler de sujets qu'on connaît et avoir vécu les situations. Je pense que le débat se trouve ailleurs. Les ruraux n'aiment pas les citadins qui viennent s'installer. Les ruraux ne sont pas forcément très polis, parce que quand on leur dit bonjour, ils nous répondent pas. Et surtout, il faut correspondre à un profil quand on s'installe à la campagne. Voilà. Et dès lors qu'on sort du profil, ça va pas, il y a des problèmes.
Mais je suis un peu étonnée de ce que vous dites. Excusez-moi, les ruraux, enfin c'est un peu, c'est des gens qui ont toujours vécu dans leur terroir. Vous venez vous installer chez eux. Il me semble que c'est un petit peu normal de faire des efforts et de s'adapter à la culture des gens qui. Non, mais je suis désolée. Vous arrivez dans un petit village de Lozère. Et ben vous habitez en Corrèze, mais vous arrivez dans un petit village. Il y a des us et coutumes et des habitudes de voisinage, une certaine ambiance. C'est pas à vous de changer les codes de la société rurale dans laquelle vous arrivez. D'accord. Donc moi je vois pas pourquoi tout d'un coup les citadins qui arrivent veulent tout d'un coup imposer leur façon de vivre aux ruraux.
Mais quand on arrive, on dit bonjour, les gens ne vous répondent pas.
Oui, c'est le côté paysan un peu rustre.
Si je peux parler, je vais vous raconter. Quand je suis arrivée, on m'a pas dit bonjour. Donc une fois, deux fois, dix fois, au bout de 15 jours, je suis allée vers mon voisin et je lui ai demandé pourquoi il me répondait pas, parce qu'il me croisait. Et il me regardait bien dans les yeux, il ne me répondait pas. Il m'a dit, je suis sourd. Bon, passons. J'ai votre femme. Il me dit, elle est timide. Et donc, après, j'ai eu des petits soucis. Genre, il y a une branche de sol pleureur qui dépasse, ça va pas. Quand je taille ma haie, il y a des feuilles qui tombent. Et puis, j'ai des petits carlins. Donc, des petits chiens avec la face écrasée. Donc, vraiment, je ne correspond pas au profil. Même mes chiens, voilà, c'est pas des chiens de chasse. Et je sais pas si vous savez, mais le carlin n'aboie pas beaucoup.
Non, c'est vrai.
Il n'aboie pas beaucoup, il n'aboie pas très fort.
Il ronfle.
Eh ben, ça lui a débouché les oreilles, mec. Voilà.
Oui, mais écoutez, j'ai l'impression quand même, j'entends tout
très
à fait.
Bon, le carlin pour les gens qui sont sourds.
Non, mais Juliette, je comprends très bien votre histoire personnelle là-dessus, mais on peut pas généraliser sur les ruraux, rustos, pas polis, qui crachent quand vous passez par terre, etc. Je crois pas que ça puisse être caricaturé comme ça. Mais je pense en effet que quand on arrive en zone rurale et qu'on décide de venir s'installer au village, eh ben on prend aussi les habitudes du village et on n'impose pas sa façon de vivre un petit peu citadine, et en exigeant en plus de ces gens-là qui s'adaptent. Et peut-être qu'effectivement au début c'est un peu rugueux avec les gens de la campagne, mais après vous voyez qu'en en règle générale, au contraire, maintenant c'est des gens super sympas. Mais c'est juste que peut-être on a perdu justement cette capacité de s'adapter à une forme de
merci Juliette,
un peu rustique.
Vous avez conclu les GG aujourd'hui. On se retrouve demain dès 9h avec Jacques Maillot, Johnny Blanc, Joël Dagosséry. Et à 11h, c'est un journaliste qui sera avec nous, Luc Biec. Il vient de publier le guide d'autodéfense du licencié. Et ça concerne beaucoup de monde aujourd'hui. Mesdames et messieurs, passez une bonne journée et à demain, 9h, pour les Grandes Gueules.
RMC, les Grandes Gueules.